L'esprit d'initiative. Bonjour Emmanuel Moreau.
Bonjour Mathilde.
Votre chronique s'adresse aux Globetrotteuses ce matin, à toutes les femmes qui parcourent le monde en solitaire. Une toute nouvelle plateforme vient d'être créée exprès pour elles.
Et oui, voyager seule a ses avantages Mathilde, mais peut aussi faire un peu peur quand on est une femme. Du moins, c'est ce qu'a pu constater Christina Boixière, habituée au voyage en solo depuis 17 ans. Son expérience lui a appris que dormir chez l'habitant était la meilleure façon de découvrir la culture d'un pays. Toutefois, cette formule n'est pas forcément de tout repos, pour ne pas dire sans risque. C'est pourquoi elle a eu l'idée de monter le site La Voyageuse, une plateforme d'hébergement comme le célèbre site américain Couchsurfing. Mais sa spécificité est qu'il est réservé aux femmes qui hébergent d'autres femmes. Et ainsi, faire en sorte que les femmes s'émancipent, c'est ça qui me motive. Le voyage donne le goût de la liberté et de l'indépendance. On fait souvent de merveilleuses découvertes qui nous changent à jamais, explique cette baroudeuse de 36 ans, d'origine taïwanaise et installée à Bordeaux.
Et donc, comment ce site assure-t-il la sécurité de ses utilisatrices?
Eh bien Mathilde, il est conçu pour rassurer. Les profils et les adresses sont vérifiés, à la différence d'autres plateformes. Ainsi, lorsqu'une hébergeuse s'inscrit, son identité est contrôlée, puis il y a un échange téléphonique afin de cerner son profil et connaître ses motivations, comme le précise Mathilde Godéchou du Figaro Demain.
Maryse habite à Bordeaux, elle est mariée, mère d'une petite fille. La jeune femme s'est inscrite en tant qu'hébergeuse. Elle aurait pu proposer son logement au site Airbnb par exemple, qui l'aurait rémunéré au lieu d'offrir sa chambre d'amis sur La Voyageuse. Pour elle, la démarche est tout autre pourtant. Elle veut contribuer à rendre le voyage plus accessible et plus humain. Et elle ajoute même « Héberger quelqu'un me permet de voyager davantage tout en restant chez moi. Et avec ma fille, ça me rassure de n'accueillir que des femmes et de savoir que les profils sont sérieusement examinés », explique la jeune femme originaire du Québec qui voyage elle-même beaucoup.
Et le service est payant?
Eh bien, la voyageuse paye 119 euros, Mathilde, pour un an. En échange, elle est hébergée gratuitement. Ce projet a débuté en 2017. Depuis, il surfe sur le succès. Il a déjà convaincu plusieurs jurys. Désigné comme l'un des 10 projets les plus prometteurs de KissKissBank, Christina Boixière a réussi à boucler en décembre 18 sa campagne de financement participatif en moins d'un mois.
Donc le site vient tout juste d'ouvrir.
La plateforme est effectivement a ouvert tout début avril. Dans sa phase actuelle, elle s'adresse aux femmes étrangères qui veulent visiter notre pays. Christina a déjà plus de 350 hébergeuses de confiance prêtes à recevoir d'autres femmes. Elle travaille sur une version en anglais et en chinois. Beaucoup de femmes asiatiques renoncent à faire seules leurs vacances car elles ont peur, alors que la France représente pour elles la destination rêvée, explique Christina. Pourtant, elle est confiante car les chiffres du tourisme prouvent qu'il y a un marché. Le nombre de voyageuses solo ne cesse d'augmenter, Mathilde. D'année en année, de 2014 à 2017, elles sont passées de 59 millions à 138 millions selon l'Organisation mondiale du tourisme. C'est pourquoi Christina voit plus loin et travaille pour faire en sorte que son site s'étende à tous les pays, favorisant ainsi l'émancipation des femmes.
Emmanuel Moreau, votre chronique L'Esprit d'Initiative est à réécouter et podcaster sur franceinter.fr.
France Inter. Mathilde Munoz. 5-7.
Il est 6h20, les meilleurs spécialistes mondiaux de la biodiversité sont réunis à Paris cette semaine, un sommet crucial. D'abord pour faire le point, quels sont les animaux ou les plantes menacées sur Terre, qui sont les responsables, comment y remédier, mais aussi pour agir. Leur rapport sera essentiel car il doit servir de point de départ à une action politique d'envergure internationale. Bonjour Yann Laurence.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes directeur du programme Biodiversité à l'IDRI, c'est l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, et vous êtes l'un des rares à avoir pu le lire, ce rapport, avant qu'il ne soit publié. Et vous l'avez lu en entier. Belle performance, parce qu'il fait quoi? 1800 pages, c'est ça?
C'est ça.
Alors, des rapports qui alertent sur la biodiversité, sur la disparition de telle ou telle espèce, j'ai l'impression qu'on en a quasiment toutes les semaines. Il a quoi de particulier, celui-ci?
Il a qu'il est mondial et qu'il a rassemblé à peu près toute la communauté scientifique qui travaille sur ces questions de manière très large dans le monde entier. Tous les hommes et les femmes de la science, on va dire, qui travaillent dans toutes les disciplines sur la question et qui répondent à la question: comment va la biodiversité? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Et comment va-t-elle, la biodiversité?
Elle va mal. Elle va mal globalement. Ce qui est frappant dans les rapports qui s'accumulent, hein, bien sûr, c'est pas un scoop, mais globalement, ça va mal. Et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas d'endroit où on voit des progrès significatifs et notables.
sur Terre, il n'y a aucun endroit préservé.
On arrive à préserver quelques espèces. On a entendu parler du thon rouge de Méditerranée, par exemple, qu'on a réussi à préserver, de certaines espèces de baleines ou des rapaces en France, par exemple. On arrive à préserver des espèces, mais ce sont des îlots de préservation dans un tapis roulant qui se déroule et qui, globalement, va de moins en moins bien.
Et c'est valable pour la faune comme pour la flore.
Exactement. Et pour la mer comme pour la terre.
Ah oui, parce qu'il y a tout a été étudié, hein, mer, terre, cours d'eau, etc.
Absolument.
D'accord.
Absolument.
Et la France ?
Et la France, alors chez nous, on a beaucoup de problèmes comme le reste du monde, notamment liés à notre agriculture, à nos villes, etc. On a notamment un gros problème de pollution avec les pesticides. On n'est pas beaucoup mieux que le reste du monde.
Alors c'est une question qui va vous faire bondir, hein, mais au final, pourquoi est-ce si grave finalement que des espèces disparaissent ou que, je sais pas, qu'un type de mouche que le commun des mortels ne connaît même pas disparaisse ? Est-ce que c'est si grave ?
C'est difficile à dire, bien sûr. On pourrait se dire que c'est pas absolument vital. Maintenant, on sait quand même que la plupart de ces insectes, par exemple, puis vous parliez des mouches, ont un rôle pour polliniser nos cultures. Aujourd'hui, on s'est passé d'une partie d'entre elles qui ont disparu. On ne sait pas si demain, quand vraiment la quasi-totalité des insectes auront disparu, si on pourra continuer à produire nos légumes et nos fruits.
C'est ça. En fait, il faut se dire que un insecte ou une plante ou un animal qui disparaît, ça peut avoir une conséquence directe sur l'homme. Si on voit cette chose-là d'un point de vue égoïste, hein, si on regarde ça d'un point de vue égoïste, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça. Globalement, ça nous sert aussi à nous protéger des inondations, des tempêtes, la biodiversité, mm-hmm. c'est la nature, c'est les grandes vallées, c'est les forêts, c'est les côtes sauvages, les récifs coralliens. Donc, c'est notre nourriture, c'est notre bien-être matériel. Puis c'est aussi bien sûr toute la richesse et la beauté du monde qu'on peut voir disparaître rapidement.
Et c'est aussi essentiel pour la recherche médicale souvent. On peut faire disparaître une plante et on ne sait pas peut-être qu'elle abritait un secret qui aurait pu nous être utile.
Oui, c'est ce qu'on se dit parfois, effectivement. Il y a des trésors dans la biodiversité dont on n'a pas encore exploré tous les recoins.
Donc ça c'est le constat, il est grave, hein, vous venez de le faire. Il va servir à quoi ce rapport ? Au-delà du constat, est-ce qu'il va y avoir une action ?
Alors... On se prépare à prendre des objectifs à la fin de 2020, à l'échelle de la planète tout entière, qui devrait normalement un peu renouveler le cadre des objectifs qui existent déjà au niveau international.
Fin 2020, ce sera un sommet en Chine, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Un sommet de l'ONU.
Voilà, qui ressemble un petit peu à la COP 15, si vous vous souvenez de celle du climat. Mm-hmm. Il y en a une sur la biodiversité, il y a une convention sur la biodiversité, et en 2020, on doit faire le point sur ce qu'on a réussi à faire, et on va pas être très positif, et on doit du coup prendre des objectifs. Et donc ça doit servir, ce rapport, il est un premier jalon très important dans cette séquence qui va s'ouvrir jusqu'à fin 2020, où il faut espérer que la planète et nous-mêmes prenons des objectifs assez ambitieux.
Et là, c'est tous les pays de la planète qui sont concernés ou il y a juste une petite liste de gens qui participent et qui veulent s'engager ?
Non, presque tous les pays de la planète ont signé cette convention, à l'exception des États-Unis, notamment. Ouais. Mais qui sont quand même des financeurs importants de l'aide au développement, hein, qui restent des financeurs, les États-Unis, de l'aide au développement, donc qui restent importants dans le système. C'est toute la planète quasiment qui est représentée, qui est signataire de cette convention.
Pourquoi les États-Unis refusent ?
Ils ont refusé dès 92, au moment où c'était une des trois conventions de Rio et celle de la biodiversité, et que les États-Unis n'ont pas voulu signer.
Et on ne sait pas pourquoi, en fait.
Ils voulaient pas se...
Pas de contrainte.
Oui, probablement.
Parce que justement, là, ce qui va se décider, donc vous le dites, hein, fin 2020, là, ce sera contraignant ou c'est juste on incite les pays à faire davantage ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va que les pays vont moins donner de permis pour d'exploitation de mines, par exemple ? C'est des choses très concrètes comme ça ou pas ?
Non, il n'y a pas de droit international vraiment contraignant. On s'engage. Après, on peut éventuellement aller chercher les responsabilités une fois qu'on s'est engagé. Ce qu'on peut espérer, c'est que les engagements qu'on va prendre soient précis cette fois-ci. Et qu'on arrête de dire « on veut une biodiversité meilleure », mais qu'on dise par exemple « on a un problème de pollution aux pesticides, on veut faire quelque chose sur l'alimentation et sur l'agriculture, sur les pesticides ».
Il n'y aura rien de contraignant.
Il n'existe pas vraiment au niveau international de droits contraignants qui n'existe pas vraiment.
Mais du coup, quand on voit où en sont les négociations climat, qu'est-ce qui vous permet d'être plus optimiste pour la biodiversité ?
Pas grand-chose.
Ça patine, hein, pour le climat.
Oui, c'est ça, pas grand-chose.
Il y a de belles intentions, mais après...
Peut-être que il y a des alliances entre la biodiversité et d'autres sujets importants pour les humains, notamment la santé. Les gens se rendent compte que leur alimentation pose problème pour leur santé. Et l'alimentation, c'est la clé pour la biodiversité. Le sujet qui pose problème globalement sur la planète, c'est le fait qu'on soit de plus en plus nombreux à manger, vous avez entendu ça très souvent à la radio par exemple, trop gras, trop salé, trop sucré, trop de viande, et que... C'est pas bon pour la santé et c'est pas bon pour la biodiversité.
Donc peut-être que on peut espérer. C'est plus concret que quand on parle d'un réchauffement climatique de 1 ou 2 ou 3 degrés, c'est ça? C'est ça ce qui vous permet d'être un peu plus optimiste
peut-être,
que pour le climat?
C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui passent notamment par une alimentation plus saine, plus en respect des normes de l'OMS, des recommandations de l'OMS, et qui pourraient résoudre une partie du problème.
Dans quelques jours, il va y avoir le G7 de la biodiversité en France, à Metz. Ça sert à quoi? C'est plus facile d'agir sur un petit groupe de pays qu'à l'échelle internationale?
Oui, disons que la parole de ces pays compte, bien sûr, et a un poids dans les négociations.
Et là, il y a les États-Unis?
Oui, absolument. C'est ça. Et donc, quand les pays du G7 prennent une position forte, ça peut avoir une influence ensuite sur la manière dont les négociations vont être abordées au niveau planétaire. Parce que ce sont des pays importants, des économies qui pèsent très lourd sur la planète, hein. Et puis c'est aussi des pays qui financent une grande partie de l'aide au développement et par lequel qui est un levier important.
Et donc là, vous attendez quoi de cette réunion? Qu'est-ce qu'on peut en attendre?
Ben, on peut en attendre des engagements, un langage fort par les grands dirigeants de ces grands pays, qui soient ensuite mobilisateurs pour leurs équipes et pour l'ensemble des autres.
Et donc, en guise de conclusion, vous êtes quoi, plutôt raisonnablement optimiste? Vous dites ça y est, on a pris conscience quand même du problème?
J'aimerais l'être. Je ne le suis pas beaucoup, non. Je pense que les tendances depuis 30-40 ans sont quand même pas positives. Et il faudrait un sursaut rapidement. Le point positif, encore une fois, c'est qu'on a des solutions qui passent notamment par une modification de l'alimentation qui n'est pas... On n'a pas besoin de devenir tous des végétariens ou des végétaliens. Il faut réduire la consommation de viande, de mauvaises graisses, etc. Et peut-être que par là, on peut arriver à faire quelque chose.
Merci beaucoup, Yann Laurence, d'être venu ce matin sur France Inter. Vous êtes le directeur du programme Biodiversité à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.